par Abnous Chalmani. Alors, je ne sais pas si votre nom veut dire quelque chose de particulier, évoque en fait quelque chose, Abnous.
Abnous n'est pas un prénom, c'est mes parents qui l'ont trouvé dans un dictionnaire de
Perse ancien. Ah ben voilà. Dans un dictionnaire de Perse ancien, et ils voulaient me donner ni un prénom religieux, ni à l'époque un prénom royaliste, donc un prénom que portaient toutes les sœurs, les cousines du roi. Et Abnous veut dire ébène en Perse ancien.
Voilà. Oula, voilà, alors ça commence très bien.
Oui, ça a commencé très jeune.
Voilà. Donc Abnous, vous êtes né en Iran, dans une famille cultivée. Votre père est un homme... ouvert. Et lorsque vous avez 2 ans, une révolution islamique, bouleverse votre pays, change votre vie. Et quelques années plus tard, vous allez à votre corps défendant résister à l'islam politique parce que vous commencez donc à aller à l'école. Et donc, là, vous racontez dans votre beau livre qui s'appelle « Khomeini, Saad et moi », de quelle façon, vous avez résisté donc, à cette islamisation. Et par la suite, vos parents se sont exilés en France. Vous arrivez en France et là, vous découvrez un pays que vous pensiez connaître, à travers la littérature, à travers toute l'histoire de la Révolution française aussi, mais aussi ces corbeaux qui vous rattrapent, ici même dans le métro. Les corbeaux, pour vous, ça signifie ?
C'est les femmes enfoulardées, ce que j'ai appelé les femmes enfoulardées, parce qu'en Iran, la spécificité de l'Iran avec le foulard n'est pas un foulard, c'est un tchador. Donc on porte en tenant comme ça. Et quand il y a du vent, forcément, les pans du tchador s'envolent et on dirait vraiment des corbeaux. Et donc, c'est devenu les barbus et les corbeaux quand j'étais petite. Et donc, j'avais 2 ans au moment de la révolution iranienne, la révolution islamique. C'était très étrange parce qu'il y a eu février 79, Khomeini est descendu de l'avion d'Air France à Téhéran. Donc là, c'était plié. C'était tout ça soutenu par la gauche iranienne, qui, sous prétexte d'anti-impérialisme, oui, ça rappelle des choses d'aujourd'hui, a soutenu les Mollahs, parce qu'ils étaient vraiment anti-américains. Et après, on les a tous sortis de prison, les gauchistes, dont mon oncle, qui était en prison sous le Shah, pour les remettre en prison ou leur mettre une balle dans la tête quelques mois plus tard, au moment où la guerre Iran-Irak a débuté, autour de 81-82. Et donc, il s'est passé 4 ans avant que je n'aille à l'école. Et très vite, c'était mars 79, dernière manifestation de femmes. On pouvait trouver les images sur YouTube. Les rues de Téhéran, il y avait des millions et des millions de femmes dans les rues de Téhéran, la plupart sans foulard, quelques-unes avec, surtout des femmes très âgées. Et c'était assez impressionnant parce qu'elles disaient « Mais nous, c'est trop tard. C'est que je ne peux plus l'enlever. C'est que je l'enlève, je suis nue. Mais je ne veux pas que ma fille, elle vive ça. Je ne veux pas que mes filles vivent ça. » Et elle le disait en français, en anglais, en allemand, et c'était absolument incroyable. Et la loi est passée, et le voile est devenu obligatoire, et donc à partir, donc ce qu'ils considèrent comme la puberté, donc à partir de l'école pour les petites filles, donc autour de 6-7 ans. Voilà. Donc à 6-7 ans, nous sommes des objets sexuels qu'il faut préserver du regard masculin. C'était déjà assez compliqué de m'expliquer ça. Moi, j'ai été élevée dans une famille, comme le disait Mila, athée, avec beaucoup, beaucoup de femmes. Ma mère a 5 sœurs, donc ça fait quand même 6 femmes, c'est assez costaud. Et du côté de mon père, c'est une famille où les femmes ont toujours travaillé, ce qui était déjà assez rare. Mais c'est des pêcheurs du nord de l'Iran avant de venir à Téhéran, et dans ces mondes paysans et de pêche, les femmes ont toujours l'habitude de travailler. Et ils ont transposé ça à Téhéran. Et est arrivée l'école, donc là, une tenue obligatoire, 3 couleurs autorisées, gris, bleu marine ou noir. Donc ma mère, totalement en panique, on n'habille pas les enfants dans ces couleurs qui sont en plus liées à l'enterrement, me choisit un tissu gris le plus clair possible. Et donc c'est une espèce de cagoule, plus une robe, plus un pantalon. Et on m'envoie après maintes cris et hurlements enfoulardés à l'école. Et ça n'a pas manqué, premier jour d'école, je me suis mise nue. À l'époque, je n'avais absolument pas conscience de l'acte politique. J'avais 6 ans. Hein. Mais je ne sais pas, c'était étouffant, ça grattait, parce qu'évidemment, il ne fallait pas que le tissu soit trop joli, parce que ça fait bourgeois, ça fait américain, ça fait occidental. À l'époque, on a quand même interdit les cravates pour les hommes comme signe d'occidentalité aiguë, et les lunettes de vue pour les femmes, au cas où elles se maquillaient en dessous. Ça a duré 5 ans, c'était assez comique dans les rues, les femmes qui se cassaient la gueule parce qu'elles n'avaient pas de lunettes. C'était très, très amusant. Donc, on en est quand même là, donc tissu rêche, enfin bon, et en sortant de cours, j'ai chaud. Je me dis, zut, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et donc, j'enlève tout et me voilà traversant la cour en courant. Et voilà que les corbeaux se mettent à me courir après. Difficile de courir avec le tchador. Elle se casse la gueule. J'ai trouvé mon jeu, c'est super. Donc ça, ça a duré 2 ans, 2 ans et demi. Et donc, une femme corbeau devait m'assister à la sortie de chaque cour. Mais enfin, elle a quand même du mal à courir. Donc, j'arrive à chaque fois à m'enfuir joyeusement jusqu'au moment de la guerre où là, plus personne ne rigolait. Et c'était même plus nécessaire parce que je pense que quelque part, autant enfant que j'étais, je savais qu'on avait perdu. C'était plié parce que même ceux qui étaient contre, c'était la guerre. Et Khomeini est certainement l'un des dirigeants les plus brillants qui existent. Et il ne l'a pas joué sur le religieux, il a joué sur le nationalisme. Ce qui explique aussi que les plus grands officiers de la guerre Iran-Irak étaient des juifs iraniens. C'est que le sentiment national est extrêmement fort en Iran et dépasse tout sentiment religieux. Même les sunnites iraniens, les kurdes iraniens ont combattu l'Irak. Et c'est allé très vite puisque la guerre des villes est commencée, ce qui veut dire que Bagdad a bombardé Téhéran, Téhéran a bombardé Bagdad. Donc là, c'était plus le temps de rire. Juste, je finis sur ça. Juste, c'est intéressant parce que là, on est en 79, on est en Iran. C'est la porte ouverte de ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que l'Iran a essayé. Mais, et là, ça devient vraiment intéressant puisque on est déjà dans une configuration mondiale, puisque la pensée est mondiale toujours, c'est que l'ayatollah Khomeini donc, est un imam chiite. Le chiisme, c'est une religion qui, une branche de l'islam, qui refuse le mélange, enfin, jusqu'à Khomeini, entre le religieux et le politique, puisque c'est une branche de l'islam qui est messianique. On attend le Mehdi, c'est-à-dire l'imam caché qui va venir tous nous sauver comme Jésus quand il revient. Grosso modo, c'est le 12e imam, c'est l'imam caché. En 1965, au premier exil de Khomeini, c'est le clergé chiite iranien qui l'a réclamé. Parce que ces types voulaient faire entrer le politique dans le religieux et le clergé a dit non, mais on avait fait une révolution en Iran qui était de 1905, justement pour séparer officiellement le religieux et le politique. Donc, premier exil de Khomeini est demandé par l'imam chiite. Ce qui est intéressant, c'est que Khomeini, qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il a lu Sayyed Qutb et Hassan al-Banna. C'est comme ça qu'il a développé son islamisme.
Ils sont les idéologues des frères musulmans.
Sans Sayyed Qutb, il est tout à fait l'Égyptien qui, petite parenthèse, a théorisé vraiment ce que Hassan al-Banna avait créé, c'est en allant aux États-Unis. Il a fait un voyage, il a eu une bourse, c'était plutôt un type lettré, issu d'une petite paysannerie. Il est allé aux États-Unis et ce qui l'a heurté, c'est le rire des femmes. C'est pas une blague, hein. Vous pouvez lire ces trucs. Il arrive et il voit ces bonnes femmes en train de rigoler dans la rue, en train de rigoler au café. Et ça, c'est pas possible. Ah non, mais tout le reste. Alors, il y a un racisme, même si, je le cite, il aime pas du tout la musique de nègre. Sous-entendu le jazz, hein, parce qu'il est aussi raciste que les frères musulmans, justement, les islamistes sont très racistes. Donc la musique de nègre, ça va pas, mais quand même, ces Américains sont racistes. Allez comprendre quelque chose. Et les femmes rigolent. Et les femmes portent des jupes, et là, il revient, et c'est là où il commence à écrire l'un de ses textes.
Et en ce sens, il rejoint en fait l'idéologue Al-Qutb, puisqu'Al-Qutb, donc, qui est égyptien, devient frère musulman lors d'un voyage aux États-Unis, et ce qui le choque, ce qui le perturbe, c'est la présence des femmes dans la rue. Ah non, en fait, vous vous rendez pas compte, mais quand même, la présence des femmes dans la rue, c'est déstabilisant. Ça peut déstabiliser beaucoup d'hommes.
Ça déstabilise la société. Donc, Khomeini lit tout ça, et paf. Et ce qui est intéressant, ce qui est un événement qu'on ne se soupçonne pas, c'est qu'en 79, quand tout le monde craignait l'effet domino, un pays musulman est devenu, on va avoir un effet domino, tous les autres pays musulmans et tout. Et on se dit, mais non, mais tout va bien, rien ne s'est passé. Mais en sous-sol, tout s'est passé. C'est-à-dire, en face, l'Arabie saoudite s'est rendu compte que c'était possible en Iran. Malgré la culture iranienne extrêmement forte, c'était possible de l'islamiser. On dit, mais il n'y a pas eu d'autres révolutions. En fait, si. Il y en a une qui s'est passée au Caire. Comme quoi, tout tourne souvent autour de l'Égypte. C'est qu'à l'époque, jusqu'aux années, début des années 80, le Caire était l'un des plus hauts lieux culturels de pays arabo-musulmans. Il y avait plus de films qui étaient produits qu'à Bollywood à l'époque. Il y avait des chanteuses, il y avait des Asmane, il n'y avait pas que Oum Kalthoum. Il y avait Asmane, il y avait des actrices, des chanteuses qui buvaient. C'était incroyable. Il y avait une musicalité, c'était extraordinaire. Mais elles sont passées où ? Et dans notre mémoire, et dans l'histoire. C'est qu'à partir de 79, les Saoudiens sont arrivés avec des valises de billets et ont dit à toutes ces grandes chanteuses et actrices, tu te couches, je te paye. Et comme c'était, mais alors là, des divas, bien sûr qu'elles avaient claqué tout leur pognon. C'était les femmes les plus riches d'Égypte, deux temps, trois mouvements, entre 14 maris par là et deux, trois productions ratées, elles étaient fauchées. Ben, les types sont arrivés et on a vu toutes ces femmes-là qui montraient leur cul quelque temps avant se couvrir de voiles. Et petit à petit, cette idéologie s'est propagée dans tout l'espace arabo-musulman et en premier lieu en Algérie.
Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, Abnous, c'est Khomeini, Saad et moi. Et je vais finir donc par un petit extrait de votre livre s'agissant des femmes. Et vous dites « Les femmes finissent toujours par me décevoir ». Je ne milite pas contre les hommes, je milite contre les barbus, contre tous les barbus, et les corbeaux aussi. Je dois trop à mon père et à mon grand-père pour leur faire l'injure de croire que tous les hommes sont des barbus, mais il y a toujours chez la femme la tentation du corbeau. Alors voilà, c'est extrait cet extrait de ce magnifique livre que je vous encourage de lire. Et donc, s'agissant...